Cours d'éthique par le Père Marie Dominique Philippe, le 12 octobre 2001 à Saint-Jodor.
Alors, quelques petites questions. C'est toujours l'impératif. On commence par les questions posées. Quelle est la différence entre la morale et l'éthique? Il y a le latin et le grec. Tout simplement. Mais les deux traditions qui se conjuguent. Alors, la tradition morale, n'est-ce pas, est latine, c'est évident. La tradition éthique est grecque. Aïtos. Alors, ça dépend si vous êtes grec ou latin. Alors, vous choisissez le moral ou l'éthique. Alors, dans le langage courant aujourd'hui, la morale, c'est les principes. Hein. Il y a Kant derrière, alors, les principes. Principes de morale. On ne dira pas les principes d'éthique. Hein. Vous avez qu'à décliner comme ça, avec plusieurs mots qui vont bien avec la morale, qui vont bien avec l'éthique. L'éthique, c'est plus pratique qu'une éthique. On a une éthique. Telle personne a telle éthique. Je ne dirais pas telle morale. C'est plus abstrait, morale. Donc, ce sera des principes. Et l'éthique, c'est une manière de vivre. Alors, une manière de vivre. Alors, il n'y a plus de principes. Vous avez votre éthique. Alors, très facilement, l'éthique sera prise pour un point de vue esthétique. En réalité, morale et éthique, pour nous, c'est la même chose. Mais peut-être que morale, on insiste plus sur les principes moraux, la loi morale. On ne parlera pas de loi éthique. Oui, on peut le dire aussi, de loi éthique. Et puis l'éthique, aïtos, la manière de vivre. Y a-t-il une signification différente entre les deux mots? Nous sommes dépendants d'un héritage latin et d'un héritage grec. Alors, pour chacun d'entre nous, le mélange du latin et du grec est différent. En vrai, si on pouvait, je m'en ferais. Ceux qui sont plus grecs, ceux qui sont plus latins. Et ça se voit dans les mœurs. C'est très curieux. On a le grec est beaucoup plus sensible à l'individu. Le grec a une finesse que le latin n'a pas. Ça, c'est vrai, il faut vous reconnaître. Le latin, c'est plus juridique. Le latin est plus juridique. Le droit canon. Le grec est beaucoup plus pour la différence des personnes et des individus. Mes actions morales, c'est-à-dire mes actes rationnels, libres et bons. Vous voyez, il a commencé. Il n'a pas dit mes actions éthiques, mes actions morales. C'est très bien. Soyez attentifs à ça, puis vous verrez, et vous arriverez à mettre une signification derrière le mot éthique, le mot moral. Il y a un monde. Et dans le langage courant aujourd'hui, vous verrez que c'est encore autre chose. Moi, je vous prends là le langage traditionnel, à fond. C'est confluent des deux, quoi. La Saône et la Loire, et le Rhône. Est-ce que c'est le Rhône, est-ce que c'est la Saône? Alors, soyez un petit peu après le bœuf, puis vous combinerez de voir exactement les eaux qui viennent du Rhin, qui viennent du Rhône, et les eaux qui viennent de la Saône. Hein? Vous avez le mélange des deux en français. Alors, je ne sais pas dans les autres langues si c'est le grec ou le latin qui prédomine. Vous voyez ça? Mes actions morales, c'est-à-dire mes actes rationnels, Vous voyez, ça irait mal en éthique, ça. Rationnel, libre, ça va pour l'éthique. Et bonne, ça va pour l'éthique. Mais rationnel, c'est plus moral. C'est du rationnel très particulier, parce que l'amitié, c'est un rationnel très particulier. Et l'amitié est morale. Alors, vous voyez, moi, je dirais des actions humaines, c'est-à-dire rationnelles et intellectuelles, actualisent ma vie humaine, me perfectionne. Pourquoi dites-vous que ce perfectionnement n'est pas substantiel, mais actuel? Vous voyez, toutes mes actions sont finalisées. Toutes mes actions dépendent de mon âme. La substance est mon âme. Mes actions ne sont pas substantielles. Ce n'est pas la substance, c'est accidentel, mes actions. Mais actuel. C'est pour ça que je dis actuel. Si la bonté est une propriété transcendantale de l'être, est donc capable de me modifier substantiellement. Me modifier substantiellement. Votre action n'est jamais substantielle. Il n'y a qu'en Dieu où l'action est substantielle. Vos actions sont toujours des opérations vitales, humaines. Elles ne sont pas substantielles. Mais elles sont finalisées. C'est par le point de vue de la fin qu'elles peuvent être éternelles. C'est la métaphysique des accidents et de la substance. Il y a une substance, vous avez une âme, vous n'en avez pas deux, vous n'en avez pas trois. Et vous avez des opérations très diverses. Depuis, faites tout simplement votre examen de conscience de votre journée. Des actions très diverses. Vous vous levez, vous priez, vous prenez votre petit déjeuner, vous écoutez un cours, uniquement ça. Puis après une récréation, c'est encore humain ça, encore une activité humaine. C'est très divers. Hein. Et c'est pour ça que nos opérations sont accidentelles. Mais elles peuvent être substantielles, en sens qu'on veut dire qu'elles sont très importantes. C'est ça que vous voulez dire, quand vous êtes substantiel, l'activité substantielle. Mais il n'y a pas d'activité substantielle. Il n'y a que Dieu qui, dans son activité, peut être substantiel. Pas vous. C'est toujours un accident. Alors, nous avions vu que la morale peut avoir que nos activités morales, qui prouvent qu'elles ne sont pas substantielles, peuvent avoir des niveaux différents. Vous avez la morale fondamentale, qui est commune à toutes nos activités. Alors, c'est des activités libres. C'est des activités intellectuelles qui sont rationnelles, qui peuvent être suprarationnelles. Parce que l'amitié, comme activité fondamentale, la morale fondamentale s'achève dans l'amitié. L'amitié est la fin de nos activités morales. Fondamentale. Alors ça, je crois que c'est commun. Ça existe dans tous les pays. ça existe dans toutes les civilisations. Il y a quelque chose de commun dans toutes les civilisations. Du reste, c'est pour ça qu'elles sont des civilisations. Le mot civilisation, c'est les activités humaines, morales. Et on parlera des vertus cardinales. Et en parlant des vertus cardinales, on veut montrer justement que c'est fondamental. Cardo, fondamental. Et l'activité fondamentale, les vertus cardinales fondamentales, c'est, il faut les savoir ça, c'est la prudence, c'est la justice, c'est la force et c'est la tempérance. Vertus fondamentales et qui existent dans toutes les civilisations. On appuie différemment, mais ça existe dans toutes les civilisations humaines. C'est pour ça que c'est quelque chose de fondamental. Et ça reste toujours pour nous fondamental. La première éducation. On apprend à l'enfant d'être propre. On apprend à l'enfant de se tenir debout. On apprend à l'enfant ce que c'est que la justice. Et on lui demandera de faire attention à ce qu'il y a de bon chez le voisin et que ça lui appartient. Que tout n'est pas pour lui. Il fera la première division et qu'il y a une justice à regarder le bien du voisin et de lui rendre. Il y a quelque chose de fondamental au point de vue éthique. La découverte de l'existence de Dieu fait que immédiatement, notre finalité change. Notre finalité fondamentale, c'est d'aimer l'homme, de le respecter, ce qui lui appartient. Et ça s'achève par l'amour d'amitié. Et l'amour d'amitié a quelque chose qui est moral. C'est pour ça qu'on distingue l'amour d'amitié honnête, c'est-à-dire moral, l'amour d'amitié de jouissance, l'amour d'amitié utilitaire. Alors, de jouissance et utilitaire, ce n'est plus moral. Et vous ne dites pas ça pour la justice. C'est très curieux, ça. Vous reconnaissez que c'est à l'égard de la finalité de la morale fondamentale qu'il y a des déraillements. Vous pouvez avoir une amitié de jouissance. J'aime follement cet ami de jouissance. J'aime follement cet ami d'utilité. Avec lui, je ne crains rien. Il saura toujours me se débrouiller. Et c'est vrai, vous aimez certaines personnes pour elles-mêmes. Vous aimez certaines personnes parce qu'elles sont agréables à vivre. Et vous aimez certaines personnes parce qu'elles sont très utiles. C'est une distinction qu'Aristote fait dans son éthique, dans l'amour d'amitié. Et c'est une distinction qui est tout à fait juste. Je crois qu'elle existe. Il y a des amitiés de jouissance qui peuvent être perverses. Elles sont plus honnêtes. Il y a des amitiés qui peuvent être purement utilitaires. des brigands qu'ils aiment. On aurait des exemples frappants aujourd'hui d'amour, d'amitié pour tous ceux qui n'hésitent pas de faire des actions qui sont plus humaines, qu'on dirait d'injustice, et qui pour eux ne sont pas de l'injustice. Et alors là, on est en face de clans et intervient autre chose que la morale, intervient l'esthétique, intervient l'utilité, intervient le profit, intervient les jouissances. Ce qui montre que déjà cette morale fondamentale peut se pervertir, peut s'orienter vers la jouissance, peut s'orienter vers l'utilité économique. Il y aurait donc trois civilisations à partir de cette morale fondamentale. Trois civilisations. Une civilisation de plaisir, une civilisation d'utilité économique, une civilisation morale. Et c'est, je crois, très important de comprendre ça, que déjà, dès la morale fondamentale, il y a diverses orientations possibles. Et il n'y en a qu'une qui est vraiment morale bonne. Les autres, c'est la perversion. Et on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Il y a des gens qui sont pervertis dans leur morale au point de vue de la jouissance. Il y a des gens qui sont pervertis au point de vue moral par le point de vue utilitaire. Donc, il y a cette morale fondamentale. Il faut bien le voir, ce qu'elle est. Immédiatement après, j'ai le point de vue de l'existence de Dieu. L'existence de Dieu change complètement mon regard humain. Je vois la possibilité de respecter l'existence de Dieu. Et ce respect se fait par la vertu de religion. La vertu de religion, c'est respecter Dieu. Quand je respecte Dieu, je l'adore. Et l'adoration n'est morale qu'à l'égard de Dieu. Vous pouvez adorer un être humain, mais alors à ce moment-là, vous avez une perversion. De la vertu de religion. Vous pouvez jouir d'un être humain d'une manière absolue. Tout est bon. Si je suis avec quelqu'un qui consent cela, alors tous les deux ont peut-être perverti et cherché dans la jouissance son attitude religieuse. Vous voyez, cette perversion de l'amitié va se retrouver dans la perversion d'adoration. Ah, c'est très grave, alors là. On est en face vraiment de la corruption de ce qui est de plus élevé dans ma morale. Ce qui est le plus élevé dans ma morale, c'est ma relation vers Dieu. Or, cette relation vers Dieu qu'est-ce qu'elle est. Je dois regarder ce qu'elle doit être et ce qu'elle est. La première relation avec Dieu, c'est de respecter Dieu. Parce que quand je découvre Dieu, je le découvre comme l'être premier, comme la personne première qui est à l'origine même de la création de mon âme, qui est Père, parce que créateur de mon âme. Les stoïciens regardent Dieu Père parce qu'il est créateur de leur âme. Et je crois que c'est juste de regarder Dieu comme Père parce qu'il est source de vie pour mon âme. Source de vie pour la personne humaine, par mon âme. Mes relations à l'égard de Dieu ont un caractère tout à fait particulier. Parce que, en découvrant Dieu, je découvre celui dont je dépends entièrement dans mon être. C'est cette dépendance dans mon être, par mon âme. Alors, vous voyez, quand on ne voit plus la distinction de l'âme et du corps, dans une certaine attitude, aujourd'hui, ça m'avait beaucoup frappé quand j'étais à Fribourg, peu de temps après, 2-3 ans après la guerre, Genève allait avait été invité par la Grèce pour venir rendre visite aux étudiants. Alors, comme j'avais des professeurs à Genève que j'aimais beaucoup, ils m'avaient dit, vous êtes à l'université de Fribourg, on vous invite, nous. Venez avec nous. Alors, ça m'avait tenter beaucoup de partir comme ça, faire un petit voyage à Athènes, d'aller visiter la Grèce, le peu de temps qu'on a, mais donc j'avais accepté, ça pouvait se faire. C'était Genève qui était invitée, et par le moyen de Genève, il y avait des amis invités. J'étais en laïque parce que, avec Genève, je voulais respecter d'une certaine manière le point de vue, leur sensibilité. Arrivé à Athènes, j'ai vu tout de suite le nonce apostolique. Et je lui ai demandé s'il fallait rester en tenue clergumane, même en laïque, ou bien s'il fallait se mettre en religieux. Alors il m'a dit, mettez-vous tout de suite en religieux. Demandez à vos amis, je ne vois si ça ne les dérange pas, ça ne les dérangeait pas du tout. Et la conversation a changé tout à fait, parce que j'étais avec des orthodoxes. Et comme religieux, ils me parlaient tout de suite. Et la première question qu'ils m'ont posée, ils m'ont posé la question, est-ce que nous devons encore, en tant que professeurs de philosophie, parler de l'âme ? Je me Si on n'en parle plus au point de vue scientifique, aujourd'hui, on ne parle pas de l'âme. Est-ce que, philosophiquement, on peut prouver l'existence de l'âme ? Vous comprenez que ça m'a intéressé comme question de voir ces professeurs orthodoxes, ces professeurs de philosophie, se posant la question. Alors j'ai dit oui, c'est évident. Et on a essayé de discuter là-dessus. Et vous voyez, si philosophiquement je ne peux pas prouver l'âme, puis-je encore prouver l'existence de Dieu ? C'est une question très délicate et importante. Même si je prouve encore l'existence de Dieu, j'ai découvert l'existence de Dieu. Alors, est-ce que ma vie est changée ou non ? Lorsque je découvre l'existence de Dieu, est-ce que ma vie éthique, morale, est modifiée ? Je crois que dès que je découvre Dieu, immédiatement, je dois avoir vis-à-vis de lui une attitude spéciale. Je ne peux pas traiter Dieu comme un égal, comme un autre homme. Je ne peux pas traiter Dieu comme quelqu'un avec qui j'ai des relations communes avec les hommes. Ma relation avec Dieu va tout de suite avoir un caractère particulier, parce que si Dieu existe et que je suis capable de l'atteindre, je découvre mon intelligence. Et par l'intelligence, je découvre l'âme spirituelle qui vient de Dieu. Je découvre donc qu'il y a en moi une âme spirituelle. Et je découvre que ma relation première à l'égard de Dieu, c'est l'adoration. Mon devoir à l'égard de Dieu, c'est tout de suite de voir que mon âme a été créée par Dieu. Et donc si mon âme a été créée par Dieu, si mon âme est créée par Dieu, je ne dis pas a été créée, si mon âme est créée par Dieu, je dois reconnaître tout de suite que je suis totalement dépendant de Dieu. Dieu est mon créateur, le créateur de mon âme. Et j'ai avec Dieu des relations très particulières. Je ne peux pas traiter Dieu comme n'importe qui. C'est immédiatement une activité nouvelle, spéciale, que j'ai à l'égard de Dieu. Cette activité spéciale, je l'appelle l'adoration, qui est due au seul véritable Dieu. L'adoration représente une activité typique, unique à l'égard de Dieu. Alors, on a des exemples frappants historiquement. offrir l'encens aux idoles. Est-ce qu'on a le droit de le faire? On doit reconnaître Dieu comme Dieu, donc unique. Il y a un acte particulier qui a son caractère propre, qui est du reste un acte unique. J'adore Dieu. Et je ne peux adorer que Dieu. Je ne peux pas adorer les idoles. Adorer les idoles, c'est reconnaître que les idoles ont vis-à-vis de moi une influence semblable à celle du Dieu unique. Et donc là, tout de suite, un très grand bouleversement au point de vue moral. Si je reconnais Dieu, je reconnais que Dieu ne peut être que l'unique. Il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. Il ne peut être que unique. Donc mon acte par rapport à Dieu a un caractère spécial qui reconnaît Dieu comme l'être premier dont je dépends. Mon âme a été créée par lui. Et mon âme a vis-à-vis de lui une relation qui n'existe que pour lui. C'est normal que j'ai à l'égard de ce Dieu une activité que je ne peux avoir qu'avec lui. Cette activité que je ne peux avoir qu'à son égard, c'est ce que j'appelle l'adoration. L'adoration au plan moral, au plan philosophique, consiste à reconnaître l'existence d'un créateur de mon âme. Dieu n'a pas créé mon corps, puisque mon corps provient de mes parents. Mon corps a été formé par eux. Même si ce n'est pas conscient, il a été formé par eux, naturellement. Ce n'est pas une œuvre artistique qui m'a créé, c'est une œuvre humaine, naturelle, que j'appelle la génération. Et qui est une œuvre, une opération d'un caractère tout à fait particulier, puisque je ne suis pas le maître de cette opération. J'en subis les conséquences. Je reconnais la grandeur de cette opération qui a comme fruit la naissance d'un être humain. Et dans cet être humain qui apparaît après un certain nombre de jours, je reconnais qu'à l'égard de cet être premier, que je ne connais pas, si ce n'est que j'affirme qu'il est. Et ce n'est que en affirmant ce qu'il est que je peux préciser ses qualités. son être, sa nature, ce qu'il est. Et je sais qu'à son égard, il y a ce problème de la création de mon âme. Mon âme, si je la reconnais, d'où vient-elle ? Elle vient d'un Dieu qui m'a créé. L'homme est incapable de créer l'âme. C'est du reste pour ça que si facilement il la nie. Parce que l'orgueil de l'homme a beaucoup de peine d'accepter quelque chose qu'il ne fait pas. Il a la tendance de reconnaître ce qui vient de lui, mais ce qui ne vient pas de lui, de qui ça peut venir ? Alors on dira de Dieu. Et s'il ne reconnaît pas Dieu, il ne reconnaît donc pas le Créateur. Et s'il ne reconnaît pas le Créateur, il essaiera par tous les moyens de montrer que l'âme n'existe pas. Donc il y a un très gros problème qui est actuel. Un très gros problème, c'est l'existence de l'âme. Et le problème éthique, le problème moral est complètement changé, mais radicalement, si j'accepte que mon âme existe et qu'elle est créée par Dieu. Je n'ai pas besoin de la foi pour l'affirmer. Je peux l'affirmer tout simplement en réfléchissant sur ce que je suis. Et en réfléchissant sur ce que je suis, je peux affirmer qu'il y a en moi une âme spirituelle, par la connaissance, par l'amour. Par l'amour d'amitié. Et je reconnais qu'il y a là une dépendance très étroite, très spéciale, très unique à l'égard du Dieu créateur. Je reçois de lui ce don qu'il me fait de mon âme. Mon âme, je ne l'ai pas faite. Parce que si je l'avais faite, je ne l'aurais pas faite comme ça. Je crois que chacun d'entre nous, nous reconnaissons que notre âme, nous ne l'avons pas faite. Elle est dépendante de Dieu. Et reconnaître qu'elle est dépendante de Dieu, c'est reconnaître l'acte créateur. L'acte créateur, c'est l'action directe de Dieu sur quelqu'un, sur quelque chose qui le réalise, qui fait qu'il existe. Dieu a créé mon âme. Et il faut bien voir, hein, j'affirme l'existence de mon âme. J'affirme que c'est Dieu seul qui en est le créateur. Que mes parents ont été les géniteurs de mon corps. Et que Dieu, à un moment donné, je ne peux pas préciser, à un moment donné, Dieu a créé mon âme. Et mon âme doit essayer de reconnaître cette totale dépendance à l'égard de Dieu. Une dépendance directe. qui fait que entre Dieu et moi-même, au point de vue de la création de mon âme, il n'y a eu aucun intermédiaire. L'acte créateur ne tolère pas une médiation. Ce ne serait plus l'acte créateur. Vous voyez tous ces problèmes qui sont très actuels, qu'il faut essayer de voir, nous permettent de découvrir parmi me permettent de montrer que l'acte créateur de Dieu me demande d'avoir vis-à-vis de Dieu une attitude originale qui est de reconnaître cette action de Dieu sur moi, que cette action du côté de Dieu est purement gratuite et que cette action vis-à-vis de moi est à la source de ma propre personne. C'est donc la naissance de ma personnalité qui est comme la réponse que je fais à Dieu. Et que s'il n'y a pas cette réponse-là, je ne puis plus être dans la vérité.